Une immense façade avec d'innombrables portes vitrées s'ouvrant sur un très vaste terre-plein. Nous sommes à Villeurbanne, cité en pleine expansion, et où vient de s'ouvrir un libre-service géant. L'intérieur, le voici, 4000 mètres carrés, le tout bien entendu ultra-moderne, avec de très larges allées, des comptoirs d'accès facile, un affichage apparent et un approvisionnement rapide. Vous y trouvez bien sûr une gamme particulièrement étendue de tous les produits. Tout cela avec des prix compétitifs. Mais oui, car la compétition reste ouverte.
La compétition reste ouverte, ça c'était 1964 à Villeurbanne et la compétition ne faisait que commencer.
Oui, alors depuis les années 80, on entend parler régulièrement de grands projets inutiles ou même de grands projets inutiles et imposés, hein, les GPII. Alors ces projets, tu l'as dit hier sur cette antenne Julien, ces projets ils sont pas inutiles pour tout le monde. C'est important de le rappeler, il y a toujours beaucoup d'argent à la clé d'une manière ou d'une autre. Ils ne sont rendus possibles généralement que par, enfin pas généralement, ils ne sont rendus possibles de toute façon que par la collusion des autorités, de celles censées défendre les intérêts publics, les intérêts collectifs, d'une collusion donc de ces autorités avec les groupes privés qui sont les instigateurs et les vrais bénéficiaires de ces grands projets inutiles. Alors évidemment, à chaque fois qu'un tel projet est lancé, les résistances s'organisent, les luttes se créent, comme le dit Paul Ariès, la lutte contre les grands projets inutiles et imposés s'inscrit dans la longue histoire des résistances populaires contre ce que les puissants ont toujours présenté comme le progrès et qui n'est que l'organisation de la société, du monde, de la conception même de la vie au service d'une petite minorité, je crois qu'on peut pas dire mieux. Alors en France, on n'est pas en manque de ces grands projets. Alors on a beaucoup parlé évidemment de Notre-Dame-des-Landes, près de Nantes, de la ferme des Mille Vaches dans la Somme, de la ligne à grande vitesse Lyon-Turin. Alors ça a ouvert à une lutte transfrontalière et le combat était beaucoup plus fort d'ailleurs côté italien. Voilà. Et dans notre région, eh ben ces grands projets inutiles, on n'en manque pas, rassurez-vous. Alors celui qui a fait la une, c'est bien sûr le barrage du Testet à Sivens, avec, on s'en souvient, la mort de Rémi Freyss fin 2014. Mais on peut y ajouter aussi la ligne à grande vitesse Bordeaux-Toulouse, qui est un combat en cours. On peut y ajouter l'autoroute Toulouse-Castres, hein, qui est quand même un projet qui a déjà rencontré l'opposition d'une quinzaine de communes. Voilà, là aussi, c'est un combat en cours. Et puis, ce projet de méga centre commercial à Plaisance du Touche, Porte de Gascogne, ils ont appelé ça d'abord, puis maintenant c'est Val Tolosa. Et on va en parler maintenant avec toi, Tanguy. Salut.
Salut, Benoît.
Alors, donc, toi, tu es membre du collectif Non au Val Tolosa?
Ouais, c'est ça.
Alors qu'il s'est appelé aussi à un moment Gardarem la Ménoude.
Ouais, non, ça c'était plutôt notre slogan, qui veut dire on garde la Ménoude en Occitan, parce que c'est le projet du centre commercial se situe sur le plateau de la Ménoude. Donc on gardera la Ménoude. Voilà. Donc ça tient toujours, on garde toujours la Ménoude. Par contre, avant on s'est appelé Non à Porte de Gascogne, parce que c'était le premier nom qui avait été donné au projet par le premier promoteur. Et il a été changé il y a quelques années parce que ça a été repris par un autre promoteur et qui a considéré que le premier nom avait trop mauvaise publicité. Donc il a essayé de rénover tout ça,
mais sans
changer le projet. Quoi.
Alors c'est bien, tu rentres directement dans le vif du sujet. Effectivement, il faut le dire, mais c'est le cas d'ailleurs de la plupart de ces grands projets inutiles et imposés, c'est que c'est toujours des combats très longs, des mises en place très longues, c'est des projets un peu pharaoniques. Et donc là, en l'occurrence, celui-là, il a été lancé il y a plus de 10 ans.
Il a été lancé il y a plus de 10 ans. Alors nous-mêmes, là, je pense qu'on peut l'appeler GP3I, celui-là. Parce que du coup là c'est un grand projet inutile, imposé, illégal, parce qu'il est illégal, il a un permis de construire qui est complètement illégal, hein, accordé par un maire en sachant pertinemment que le permis ne vaut rien, mais voilà, les élus passent dessus.
Alors
voilà.
Fais-nous un petit peu l'historique rapidement quand même du coup.
Donc l'historique, c'est un projet effectivement qui a plus de 10 ans, donc qui date à peu près de 2004 où le maire de Plaisance a mis ça en place, qui est toujours le maire actuel. Qui a voulu lancer ça.
Monsieur Louis Escoula. Hein.
Voilà, c'est ça. Du coup, le collectif s'est monté rapidement après, en 2005. Donc c'était le collectif Non aux Portes de Gascogne, voilà, qui est vite devenu une association, mais bon, on garde le nom de collectif. Voilà. On a statut d'association, mais on aime bien le nom de collectif, parce qu'on est tous ensemble, on est collectif. Voilà, et donc ça a été une lutte, donc ça fait plus de 10 ans qu'on est en lutte juridique énormément, c'est un gros travail de lutte juridique au fait pour contester. Donc le premier permis de construire qui avait été accordé a été annulé, ça c'était en 2005 ou 6, je sais plus. Donc on a continué à lutter. Le premier promoteur qui était un promoteur canadien a laissé tomber et ça a été repris par un promoteur franco-néerlandais qui s'appelle Unibail Rodamco, qui est c'est une grosse machine. Ils sont en 440.
Ah bah écoute, oui, si tu veux, je peux même les présenter un petit peu. J'ai noté quelques petites choses. Alors Unibail Rodamco, donc eux, ils ont repris ce projet Val Tolosa, enfin. Anciennement Porte de Gascogne, ils l'ont rebaptisé, hein, si on t'entend bien, Val Tolosa. Alors eux, c'est vraiment un mastodonte. Alors c'est marrant parce que c'est des entreprises dont on a l'impression qu'on n'en a jamais entendu parler, alors que c'est absolument, vraiment, quand on va sur leur page, c'est absolument incroyable. C'est un mastodonte européen de l'immobilier commercial. Ils pèsent plusieurs dizaines de milliards de dollars. Ils sont cotés au CAC 40, à l'Eurostock 50, etc. Ils sont propriétaires, tenez-vous bien, de plus de 70 centres commerciaux en Europe. Donc France, Pays-Bas, Suède, Espagne, la liste est longue. Alors par exemple, bon, bah, c'est eux qui ont la part due à Lyon. Ils ont racheté récemment le Forum des Halles à Paris. Donc vous voyez, des choses quand même, des centres commerciaux très importants. Ils ont tout un paquet de centres de congrès également. Ils gèrent des foires et des salons. La foire de Paris, le salon de l'agriculture, c'est eux, voilà. Et ils ont tout un tas de projets, évidemment, de beaux projets pour nous. Hein. Ne vous inquiétez pas, ça bosse bien. Alors évidemment Val Tolosa, mais on peut aussi citer l'affreuse et très contestée Tour Triangle à Paris, hein, dont on peut dire d'ailleurs que les travaux doivent démarrer début 2017. Donc voilà, un sacré machin, Unibail Rodamco.
Et ce qu'on peut dire aussi sur Unibail, c'est que l'ancien PDG d'Unibail, qui était PDG jusqu'en 2012 je crois, ensuite était nommé conseiller spécial de François Hollande. C'est pour la simplification économique ou développement économique, etc. Enfin, voilà. Donc il est devenu conseiller spécial de François Hollande, il l'est toujours aujourd'hui.
Le fameux choc de simplification.
Voilà, bah, il fait partie des artisans de tout ça.
Ouais. Qui est le choc de simplification, une arme justement pour imposer ces grands projets qui sont beaucoup trop contestés par les gens quand même, il faut le dire.
Oui, c'est vrai que si les gens ne pouvaient s'intéresser à autre chose que à ce qu'on va faire de du monde dans lequel on vit, ce serait quand même bien pratique pour tous ces promoteurs.
Oui, s'ils pouvaient regarder la télé et puis se taire.
Bon, et donc là-dessus, donc tu disais que c'était d'abord une bataille juridique.
Ouais, c'était une longue bataille juridique. Donc on a fait annuler le premier permis de construire. Le deuxième a été accordé en 2009. Voilà, donc nous on l'a contesté. On a eu gain de cause en début de cette année, début de 2016, le tribunal administratif, la cour d'appel administrative de Bordeaux a annulé le deuxième permis de construire, donc qui avait été accordé cette fois à Unibail. Et voilà, et là on est en lutte contre le troisième permis de construire parce que le maire a donné un nouveau permis de construire aussitôt le jugement donné par la cour d'appel. Et voilà, sauf que nous ce qu'on conteste très fort aujourd'hui, c'est que entre le deuxième permis de construire et le troisième qui a été accordé cette année, le SCOT, c'est le schéma de cohésion territoriale, a été modifié. Donc c'est ce qui organise l'aménagement au niveau de l'agglomération toulousaine et la zone a été classée non constructible. Enfin, le maire le sait pertinemment, ça fait plusieurs années que c'est comme ça. Mais...
Donc ça, c'était pas entre ses mains, c'est pas lui qui a nommé
non,
ça,
non,
évidemment.
Non. Ça c'est quelque chose qui est au niveau de l'agglomération, qui gère au niveau de l'agglomération directement, et voilà. Mais ça contraint les communes qui en font partie. Voilà. Mais le maire a accordé ce permis de construire alors que voilà. Donc c'est écrit noir sur blanc, tout le monde sait pertinemment que ce permis ne vaut rien. Du coup, Unibail essaie de aujourd'hui donc là, nous, enfin on est en ce moment dans 5 ou 6 procédures judiciaires en même temps, donc ça, c'est assez compliqué.
Oui, assez lourd pour une association.
C'est assez lourd, et donc bah, nous on est aussi contraint par les limites financières, et donc là on essaie de se débattre pour avoir les fonds suffisants et pour pouvoir continuer. Donc je pense c'est une des luttes des promoteurs de ce de projet, c'est aussi d'acculer financièrement les associations qui essaient de se battre contre.
Et oui, d'un côté, on a un robinet à pognon infini, et de l'autre côté, des petites associations.
Ils n'ont pas les mêmes réserves que nous, ça c'est sûr. Et du coup, là, ils sont allés, ils essaient d'obtenir le pourvoi en cassation pour récupérer leur deuxième permis de construire, donc ce qu'ils ont eu. Celui-là n'est pas contraint par le SCOT. Et voilà, et donc ça va être aussi. On attend la décision, savoir s'ils auront gain de cause pour aller en cassation ou pas. Si c'est le cas, il faut un avocat spécialisé pour l'encastration, ça coûte beaucoup d'argent. Et voilà, donc on va voir. Mais donc ils ont le deuxième permis de construire, ils essaient de récupérer le premier parce qu'ils savent très bien que le deuxième est pas très costaud. Et voilà. Mais en attendant, ils font avec. La commune a décidé de lancer les travaux pour l'aménagement des voies routières hein, qui sont censées desservir ce projet-là. Et donc ils foncent à toute allure, alors qu'aujourd'hui, voilà, ils ont un permis de construire qui ne vaut rien et il n'y a pas une pierre qui est posée sur le site du centre commercial.
Ils tentent le passage en force, oui. Alors, et non seulement tu dis, donc effectivement, tu parles des constructions de routes, mais ils ont aussi commencé à déboiser.
Donc ils ont, alors ça c'est pour la route effectivement.
C'est pour la route.
C'est pour la route. Le déboisement qu'il y a eu était sur le tracé de la route, donc ils veulent faire c'est une 4 voies qui puisse amener directement de la route d'Auch, la route Toulouse-Auch, qui part de là pour desservir directement le centre commercial. Donc là effectivement nous on a donc il y a la justice joue à pas mal de niveaux. Aujourd'hui, on a aussi eu un combat contre sur le site en question, il y a des espèces protégées. Donc, pour pouvoir détruire des espèces protégées ou les déplacer, il faut des autorisations spécifiques, des dérogations qui sont accordées par la préfecture et voilà, et qui sont censées être accordées seulement en cas d'intérêt public majeur, d'intérêt général. Et donc, ils ont fait des demandes et la préfecture a accordé il y a quelques années des dérogations donc pour les deux sites. Le site de la route qui pour la construction de la route et le site pour le où est censé se faire le centre commercial. Donc voilà, le préfet a accordé les autorisations de destruction d'espèces protégées en disant que c'était effectivement un projet d'intérêt général majeur. Donc nous, bien sûr, on est vent debout contre le fait de considérer qu'un centre commercial est un projet d'intérêt général majeur. C'est un projet économique privé qui n'a rien d'intérêt général du tout, ni mineur ni majeur. Et voilà. Et donc nous, on a fait appel contre ces autorisations. Donc celle pour le, donc il y en avait deux qui avaient été accordées parce qu'il y a le projet de la route et le projet de centre commercial, même si au final ça fait un tout, c'est deux chantiers différents. Celle pour le centre commercial a été cassée en justice aussi par le tribunal administratif et on attend la réponse pour celle de la route où bon, ils essaient de faire traîner, rapporter des trucs au dernier moment pour que le jugement soit retardé. Et donc les travaux qu'ils ont fait aujourd'hui, ils ont effectivement détruit un bout de forêt où il y a des capricornes qui sont une espèce protégée. Donc il y avait aussi le rosier de France sur le terrain qui est aussi une espèce protégée. Voilà, et on sait très bien aujourd'hui que le premier a été annulé, le deuxième, la réponse doit tomber bientôt, risque d'être annulée parce que les conditions sont sensiblement les mêmes. En tout cas, il y a risque que la deuxième autorisation soit annulée. Et voilà, la mairie a décidé de passer en force à partir d'octobre, là, depuis octobre, pour faire ça, en sachant très bien que voilà, on aura bientôt la réponse qui dira si effectivement les travaux étaient illégaux ou pas, mais on attend.
Oui, ils
pas.
Essayent de mettre devant le fait accompli, quoi. Ouais. Alors peut-être avant de détailler les différents aspects du projet et les différents problèmes qu'il pose, tu as commencé à parler du problème environnemental, c'est pas le moindre. On peut peut-être écouter un petit morceau, une petite pause.
Ouais, un petit Boris Vian.
Allez, tiens, un petit Boris Vian.
La complainte du progrès.
Sur Canal Sud.
La complainte du progrès. Autrefois pour faire sa cour, on parlait d'amour. Pour mieux prouver son ardeur, on offrait son cœur. Maintenant c'est plus pareil, ça change, ça change. Pour séduire le cher ange, on lui glisse à l'oreille. Ah, Gudule, viens m'embrasser et je te donnerai un frigidaire, un joli scooter, un atomixer et du dalopio. Une cuisinière avec un four en verre, des tas de couverts et des pelles à gâteau. Une tourniquette pour faire la vinaigrette. Un bel aérateur pour bouffer les odeurs. Des draps qui chauffent, un pistolet à gaufres, un avion pour deux. Et nous serons heureux. Autrefois s'il arrivait que l'on se querelle, l'air lugubre on s'en allait en laissant la vaisselle. Maintenant que voulez-vous, la vie est si chère. On dit rentre chez ta mère et on se garde tout. Ah, Gudule, excuse-toi, ou je reprends tout ça. Mon frigidaire, mon armoire à cuillère, mon évier en fer et mon poêle à mazout, mon cire godasse, mon repas solimace, mon tabouret à glace et mon chasse-filou, la tourniquette à faire la vinaigrette, le ratatine ordure et le coupe-friture. Et si la belle se montre encore rebelle, on l'affiche dehors pour confier son sort au frigidaire, à l'efface poussière, à la cuisinière, au lit qui est toujours fait, aux chauves-savates, au canon à patates, à les ventres tomates, à l'écorche poulet. Mais très très vite, on reçoit la visite d'une tendre petite qui vous offre son cœur. Alors on cède, car il faut qu'on s'entraide, et l'on vit comme ça jusqu'à la prochaine fois. Et l'on vit comme ça jusqu'à la prochaine fois. Et l'on vit comme ça jusqu'à la prochaine fois.
Ah, Gudule.
Eh, une chanson de 1956 quand même. Hein.
Ouais, mais avant le carrefour de Villeurbanne, dis donc.
Avant le carrefour de Villeurbanne, il brocardait déjà la société de consommation, ça n'a pas tellement vieilli. Hein.
Du coup, tu parlais de ce projet d'intérêt général majeur et que cette idée-là, vous la contestez. Mais du coup, ça nous permet de rentrer dans le projet. Qu'est-ce que c'est que ce projet de centre commercial là, à Plaisance-du-Touche?
Bah, donc ils veulent faire un centre commercial. Bon, alors, maintenant, eux, ils appellent ça des centres de loisirs. Et ils ont changé le nom, c'est plus les centres commerciaux. Bon, ils sentent quand même bien que, dans le fond, dans la société française et je pense dans un certain nombre d'autres pays, commence à avoir une remise en question les sociétés de consommation, les problèmes écologiques que ça pose, etc. Donc ils essaient de détourner un peu en appelant ça un centre de loisirs. Bon, ça reste carrément un centre commercial, hein, faut pas rêver. Donc c'est un projet qui a prévu. Bon, ça fait à peu près 60 000 mètres carrés de surface commerciale, donc bon, ça parle pas forcément toujours quand on n'est pas habitué à ce genre de chiffres. En gros, c'est à peu près un de la taille de celui de portée sur Garonne. Voilà, donc ça, ce qui est, quand il a été construit, je crois que c'était le plus gros de France. Donc ça reste un très très gros centre commercial, et donc là c'est un centre commercial à peu près de cette taille-là qu'ils veulent faire, donc avec un hypermarché gigantesque, une galerie commerçante, ensuite des magasins autour, voilà, un peu les mêmes qu'on trouve dans tous les autres centres commerciaux.
Alors ouais, mais les chiffres que vous donniez là, je crois même que c'est 90 000 mètres carrés de commerce, plus que 60 000. Bon, alors 60 000, 90 000, bon, ouais. Bon, de toute façon,
c'est beaucoup de terrain de foot.
Un hypermarché de 12 000 mètres carrés et une galerie marchande de 150 grandes et moyennes surfaces, donc un chiffre qui varie, hein, selon les différents contrats, mais enfin voilà. Et à ça, il faut ajouter 6000 m² de restauration pour une quinzaine de restaurants, et puis 4200 places de parking, voilà. Mais, greenwashing oblige, le promoteur annonce 2000 arbres plantés.
Voilà, c'est ça.
Alors bah, pourquoi vous râlez, 2000 arbres plantés, c'est pas mal.
C'est vrai. Mais d'ailleurs, on a vu droit à une soirée où le promoteur notamment présentait son projet à Plaisance-du-Touche, parce que nous on avait demandé à ce qu'il y en ait une. C'était au moment de l'enquête publique sur le dernier permis qui a été accordé. Et donc on avait eu les architectes du centre commercial qui étaient venus, les aménageurs au niveau de l'espace extérieur, etc. Et donc
les paysagistes,
merci. Et ils avaient utilisé une expression qu'on avait particulièrement apprécié, c'était ils vantaient les mérites d'une nature authentique reconstituée. Donc on essaie toujours de démêler ce que ça veut dire concrètement. Donc je pense que les 2000 arbres font partie de la nature authentique reconstituée. Non, concrètement, ça bétonne énormément, et effectivement, ils vont planter quelques arbres. Bon, je sais pas s'ils ont compté le nombre d'arbres qu'ils ont détruits ce mois-ci.
C'est ça, c'est tout un bois là qui est détruit.
Là, c'est une partie du bois en fait pour le. Alors eux, ils vont dire c'est pas eux, c'était pour la route. Bon, bah, concrètement, c'est la ouais. C'est la même chose, mais voilà. Donc non, je pense que. Bon, on peut en rire, mais ça fait quand même mal de voir qu'ils présentent ça comme un projet écologique, quoi. Bon, on sait que c'est un centre commercial où ce ne sera pas desservi par des transports en commun, donc ça va être des milliers de voitures en plus qui vont venir là.
Ils vont bien faire une piste cyclable quand même.
Sur la 4 voies, ils vont faire une 5 voies, alors on va
c'est ça.
Non, mais concrètement, c'est bon. J'espère qu'aujourd'hui, on n'est pas dupe quand on entend ce genre de choses. Non, c'est une zone naturelle qui va être bétonnée et on va construire. Et alors voilà, nous, ce qu'on conteste notamment, alors outre le fait que bon, on pense que les centres commerciaux, c'est pas forcément en soi quelque chose de positif et de bénéfique pour la société. Aujourd'hui, l'agglomération toulousaine est une des agglomérations en France qui est la plus équipée en zone commerciale et en centres commerciaux. Je crois qu'on est parmi les champions en termes de surface, un mètre carré par habitant de surface commerciale.
Et le centre-ville de Toulouse se transforme lui-même en centre commercial.
Alors, voilà,
on en discutait hier, ouais. 19 km de vitrine rien qu'au centre-ville, mis bout à bout.
Il y a les projets qui arrivent aussi là.
Donc Toulouse, et puis donc après c'est pas compliqué, hein, on Blagnac, Saint-Aurin, Portet, évidemment, tu as cité, voilà.
Fenouillé.
Rock, évidemment, ouais. Voilà. Effectivement, ça manque pas, mais effectivement, il y avait un petit trou à l'ouest et
Il y a Blagnac, c'est à l'ouest. Hein,
ouais.
Non, il n'y a pas vraiment de trou. Alors eux, ils appellent ça un trou, effectivement. S'il y a 10 km entre deux centres commerciaux, ils appellent ça un trou. En sachant qu'à Colomiers, il y a une zone commerciale qui s'est développée juste à côté. Là, ils veulent faire le projet. Il y a les portes du Tarn qui sont un petit peu plus loin aussi, en s'éloignant de Toulouse, où il y a un centre commercial qui s'est construit entre-temps. Voilà, et ce qu'on observe aussi, alors nous, ce qu'on met en avant, c'est que, outre le débat qui peut y avoir, ou qui devrait y avoir sur le bienfait des centres commerciaux dans notre société, on observe au niveau de la société un recul de la fréquentation des centres commerciaux, donc un retour, ça se manifeste au niveau national, un retour vers les commerces de proximité. Donc chaque année, il y a un petit recul. Bon, il y a d'autres sociétés où on observe ça. Aux États-Unis, je crois qu'il y a plus de 400 centres commerciaux qui sont aujourd'hui désaffectés, et c'est juste des friches commerciales. Voilà, donc on se dirige vers ça en France et on continue à construire et à bétonner, alors que parallèlement on soulève le problème de la disparition des terres naturelles et des terres agricoles. Et voilà, on sait que les gens n'y vont plus, on sait que ça va devenir, il y a des centres commerciaux qui vont devenir des friches commerciales, et on se pose pas la question, on continue à en construire parce qu'il y a des promoteurs qui pensent avoir encore des billes à gagner là-dedans. Et voilà, donc il y a un vrai problème au niveau de la société et au niveau des politiques qui ont conscience de ces problèmes-là. Et voilà, il n'y a pas d'action là-dessus, quoi.
Alors, tu as dit beaucoup de choses là. Tu as parlé notamment de la disparition des terres agricoles. On appelle aussi ce phénomène l'artificialisation des sols. Et justement, lors de la journée spéciale que nous avions fait Canal Sud à la Chapelle en septembre dernier, c'était autour des 15 ans de l'explosion d'AZF, nous avions invité notamment Cécile Claverol, ingénieure agronome, et elle nous avait dit quelques mots à propos de l'artificialisation des sols. On écoute ce qu'elle dit, c'est assez intéressant.
Alors, l'artificialisation des sols, on peut aussi parler d'imperméabilisation, c'est pas exactement pareil, mais sensiblement. C'est toutes les superficies de sols agricoles, de sols naturels ou de sols forestiers que l'on va utiliser pour construire des routes, pour faire des voies ferrées, pour voilà. Tout ce qu'on utilise à des fins de construction et qui, globalement, ne vont pas pouvoir retourner à l'état de sol en production ou de prairie ou de d'autres. Une voie ferrée, bon, au bout d'un moment, la nature reprend ses droits, mais elle met quand même un peu de temps. Et en fait, alors c'est vrai que la population française et mondiale augmente, c'est vrai qu'on a besoin d'un peu plus de routes et d'un peu plus, mais notre façon de vivre, notre façon d'habiter, etc., fait qu'on consomme énormément de sol. On est, alors, selon les chiffres, un département l'équivalent de la superficie d'un département tous les 10 ans, 27 mètres carrés par seconde. On calculait que ça faisait un stade de foot toutes les 4 minutes. Voilà, selon ce qui vous parle. De surface artificialisée en France. C'est quand même énorme. Et à un moment donné, ça a une fin, c'est-à-dire que on parle de compensation, il n'y a aucune compensation possible. La superficie cultivable ou naturelle ou forestière, elle a une fin, elle est finie. Les terres émergées sont finies. Bon, d'accord, peut-être qu'avec la fonte de la banquise, on va en avoir un peu plus. Avant qu'on les cultive, il y aura quand même un petit peu de temps. On sera peut-être plus là pour le voir. Donc tout ça, c'est faux de croire qu'on peut se permettre tout ça et que ben, on va bien en trouver ailleurs. Ben, si on n'en trouve pas chez nous, on va aller au Brésil. Non. Si on considère qu'on a une conscience planétaire et pas uniquement franco-française ou toulousaine, il faut qu'on prenne ça en compte. Et si on a plus de surface à cultiver en France et qu'on va cultiver dans un autre pays, on va bouleverser la culture des gens qui vivent là-bas, on va bouleverser les milieux naturels, etc., etc. Donc cette artificialisation, elle devrait toujours se faire avec une énorme réflexion. C'est pas « Oh ben tiens, on a besoin d'une autoroute, on a besoin d'un hangar, on a besoin d'un machin ». On construit alors qu'à côté, il y a une friche industrielle d'ailleurs, dont on ne s'est pas posé la question de savoir ce qu'on allait en faire. L'aberration. On pose des panneaux photovoltaïques sur des champs. Mais non, d'un chien, on a combien de surface sur nos foutus centres commerciaux? Quelle surface on a sur lesquelles on pourrait faire? Par exemple, aujourd'hui, on devrait rendre obligatoire tout centre commercial qui se crée, il doit avoir la superficie couverte de panneaux photovoltaïques. Par exemple, enfin, déjà, il faut déjà réfléchir à est-ce qu'on a vraiment besoin de l'ouvrir.
Bon. Oui, effectivement, il faut réfléchir à est-ce qu'on a vraiment besoin de l'ouvrir. C'est ce qu'on fait. C'était Cécile Claverolle, elle n'est pas ingénieure agronome, mais ingénieure agricole, pardon, et c'était sur Canal Sud en septembre. Mm. Ouais, y a pas mal de choses là dans cette intervention.
Oui, y a beaucoup de choses qui sont dites. Alors, c'est vrai qu'il y avait un documentaire sur Arte aussi, il y a 3 jours, notamment sur la disparition des terres agricoles. En général, pour des gros projets, souvent inutiles. Il parlait du grand stade de Lyon, qui est aussi une belle aberration.
L'OL Land, oui, tout à fait.
Voilà, une belle aberration écologique, économique et tout ce qu'on veut. Et je ne sais plus qui soulevait le problème qu'effectivement, au niveau des politiques et des communes, la valeur de terre agricole ou de terre naturelle n'est pas prise en compte. Donc je pense qu'il y a quelque chose qui est dans la tête des politiques. Des élus de petites communes, etc., qui est que tant qu'il reste des terres agricoles ou des terres naturelles, la commune n'a pas atteint son plein potentiel. Je pense qu'il y a un côté comme ça, à se dire que tant qu'il y a de l'espace vide, c'est qu'on peut faire plus grand, on peut faire mieux, et que effectivement, on n'a pas mesuré l'importance aujourd'hui d'avoir des terres qui permettent de cultiver, pour produire localement, pour avoir des zones où la nature aussi peut se reposer, et puis un peu se développer, et tant qu'on n'aura pas pris ça en compte, j'espère qu'on s'en rendra compte avant qu'il soit trop tard. Mais effectivement, comme le disait la personne, c'est un espace fini. Donc quand on n'en aura plus, on sera bien embêté.
Oui, et ça ne se recrée pas comme ça, de la terre agricole. Hein. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a rendu une terre non agricole, et ben après, c'est des centaines, voire des milliers d'années avant de retrouver une même qualité de terre.
Je crois qu'aujourd'hui, on ne sait pas encore comment on fait, en fait.
On laisse faire la nature,
une fois que c'est bétonné. Ouais,
c'est pas à l'échelle humaine, quoi. Ouais, c'est ça.
Ouais, c'est ça.
Alors, là, en l'occurrence, on parle de 44 hectares de terrain naturel détruits par l'emprise du centre commercial. En tout cas, c'est les chiffres que vous avancez. Tu as parlé de plein de choses encore. Alors, on va essayer de revenir un peu dans l'ordre. Tu as dit, il y a une vision des élus. C'est vrai qu'on en parlait en préparant l'émission avec Julien, on sait que dans les années notamment 70, 60, etc., les centres commerciaux se sont beaucoup installés dans l'illégalité, se sont beaucoup installés en utilisant la corruption, il y a eu moult témoignages là-dessus, mais il n'y a pas que ça. Il est évident que tous les élus qui cherchent à avoir des projets comme ça, des centres commerciaux sur leur commune, ne sont pas tous corrompus, n'ont pas tous l'impression de travailler contre l'intérêt collectif. Il y a une vision du monde aussi derrière.
Oui, je pense qu'il y a une vision du monde, il y a une vision du monde d'une part, il y a une vision locale d'autre part. Alors je pense qu'il y a effectivement deux choses. Si on prend au niveau des communes, déjà il y a l'idée qu'effectivement avoir un centre commercial sur sa commune, ça rapporte des taxes donc pour la commune. Donc on se dit, si c'est chez moi et pas chez le voisin, c'est moi qui vais prendre et pas le voisin, et je m'en sortirai mieux. Et donc je pense qu'il y a aussi une quête à ce niveau-là des communes. Le problème, c'est que c'est destructif très vite. C'est juste une course entre les gens qui vont se manger. On voit qu'il y a déjà des centres commerciaux commerciaux qui commencent à battre de l'aile autour de Toulouse. Et une fois que c'est le cas, ça fait des communes qui vont regalérer derrière. Donc il y a un problème qui n'est pas une vision globale, mais une vision très très locale avec un intérêt très très local.
Mais qui vient quand même de l'État, parce que ça vient quand même d'une baisse des dotations de l'État envers les collectivités. Il y a une recherche effrénée d'argent un peu partout. Quoi.
C'est sûr que ça joue avec la baisse des recettes des collectivités. Donc ils essaient aussi d'en retrouver par ailleurs. Et bon, il y a toujours. Moi, j'en ai pas, mon voisin en a, pourquoi j'en aurais pas et... Bon, voilà. Donc il y a une logique purement locale qui peut se comprendre, mais qui est néfaste au niveau collectif. Après, je pense qu'effectivement. Le deuxième point que tu disais, c'était sur les.
Deuxième point, on parlait de ça, on parlait de cet aspect que toutes les personnes qui se battent pour le projet ne sont pas forcément des personnes qui ont des intérêts particuliers à défendre.
Oui. Voilà. Et d'autre part, oui, c'est ça, oui, ça je reviens. Et effectivement, il y a aussi aujourd'hui un des gros problèmes auxquels on est confronté, c'est l'argument de l'emploi, en fait, où ce que nous disent, mais c'est ce qu'on voit sur à peu près tous les projets qui sont contestés comme ça, le premier argument qui est mis en avant par les défenseurs de ces gros projets, c'est que ça va créer de l'emploi. C'est ce qui justifie la plupart du temps le fait que ce soit des projets, ce qu'ils appellent des projets d'intérêt général majeur. Si ça crée un emploi à un moment, comme les politiques ne cessent de rappeler que leur première préoccupation, c'est le chômage, c'est l'emploi, etc. Il y a ça qui est énormément mis en avant. Alors nous, ça nous pose un problème. Ça veut dire que le problème, c'est que c'est en général une vision très court-termiste, alors notamment par exemple sur l'emploi, alors sur le projet Val-Tolosa, il parle d'un certain nombre de créations d'emplois pour la construction du projet, mais donc c'est des emplois qui vont tenir quelques semaines, quelques mois, peut-être pour certains quelques années, mais rarement, parce que les différents corps de métiers vont se succéder.
Le temps des travaux,
et alors c'est souvent des emplois qui durent très peu de temps, donc ça ne règle aucunement la question de l'emploi sur ces emplois-là, c'est juste sur un très court temps. Et ensuite, ils avancent que ça va créer, par contre, une fois que le centre sera mis en service, un certain nombre, eux, ils annoncent 2000 emplois. Bon, sur les chiffres, on ne sait pas exactement d'où ça sort, et on a aussi des études qui montrent que c'est peut-être un peu surestimé par rapport à l'ampleur du projet. Mais le problème, c'est que ça, on prend jamais en compte. Et là, il y a des études qui ont été faites, tous les emplois que ça détruit autour, parce qu'au fait, en créant un centre commercial, on ne crée pas un besoin nouveau. Et les gens qui vont aller dans ce centre commercial vont arrêter d'aller, le plus souvent, c'est dans les petits commerces qui étaient à côté. Et les études montrent qu'en général, pour un emploi créé dans un centre commercial, dans les années qui suivent, il y a à peu près 3 emplois qui disparaissent dans des petits commerces autour ou dans des moyens commerces.
Ou même d'autres centres commerciaux plus anciens qui subissent la concurrence des nouveaux projets, voilà. Bien sûr. Ouais.
Et donc, ça ne tient pas du tout à ce niveau-là. Et alors, en plus, si on pousse un peu, il suffit juste d'observer l'évolution de fonctionnement des centres commerciaux avec les postes de caissière qui disparaissent. Aujourd'hui, il y a des robots qui arrivent pour nettoyer tout seul, où il n'y a plus besoin de personne pour pousser les robots. Les gens qui travaillent dans les centres commerciaux, c'est beaucoup ça, c'est les caissiers, c'est les gens qui sont là pour faire de l'entretien, et il y a de plus en plus d'emplois sur ces grosses entreprises qui sont remplacées, des personnes travaillant qui sont remplacées par des robots ou par des machines. Donc même à ce niveau-là, les 2000 emplois créés peut-être n'en feront plus que 1000 dans quelques années, parce qu'on aura trouvé des substituts.
Puis sans parler de la qualité de ces boulots créés, qui sont quand même pour une extrême majorité des sacrés boulots de merde quand même.
Ouais, c'est ça, complètement dévalorisant. Bon, mais là, s'il faut repartir sur le sens du travail, là, c'est encore une idée.
Non, mais c'est vrai qu'on travaille, on a vu en préparant l'émission que la concurrence était énorme. Tu l'as dit toi-même, il y a des projets comme ça, de grands centres commerciaux géants, il y en a plein. Faut quand même, on l'a pas dit depuis le début de l'émission, mais la France, c'est le premier pays d'Europe de l'Ouest en termes d'ouverture de ces méga centres commerciaux. Donc, c'est absolument incroyable. Tu l'as dit toi-même, à Toulouse, c'est déjà très fourni. Donc, forcément, il y a une concurrence importante qui se crée. Et ça, c'est aussi des moyens de pression qui sont utilisés pour faire accepter tout et n'importe quoi aux salariés. Hein. Cette concurrence-là, et notamment le travail dominical. Hein.
Ouais, puis c'est marrant comme cette histoire de l'emploi est prétexte à tout, en fait, à toute politique destructive, que ce soit au niveau de la construction d'un centre commercial, mais comme sur les questions de la loi travail, comme sur toutes sortes de choses. C'est pour créer de l'emploi, parce que vous comprenez, il y a plein de chômeurs et que ces gens sont malheureux et qu'on va leur donner des boulots de merde pour qu'ils... pas trop qu'il la ramène, quoi.
Oui, comme si c'était pas un problème systémique, hein.
Ouais, c'est ça. Comme si ce prétexte n'était pas justement créé, peut-être pour avancer dans ce sens-là, justement, quoi.
Mais ça permet le chantage à l'emploi, et c'est très 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 pratique
ouais.
pour les élus et pour les défenseurs de ce type de projet.
Alors, tu as dit autre chose aussi, là, dans tout ce que tu as dit, bon, c'est assez riche, mais on a parlé de la concurrence donc, entre les différentes, ces différents centres commerciaux, donc forcément, il y en a qui sont menacés de disparition, voire c'est déjà fait. Or, tu l'as dit tout à l'heure, après, ça crée des friches. Qu'est-ce qu'elles deviennent, ces friches ?
Ça fait juste des zones abandonnées. Alors, il faut voir à quel point aujourd'hui on a par exemple des centres commerciaux où c'est pas encore des friches parce qu'ils sont encore exploités. Par contre, il y a de plus en plus d'emplacements qui sont vides. Alors, en général, c'est très bien fait. On s'en rend pas forcément compte, c'est masqué. Quand on peut se promener dedans, on voit pas des locaux vides avec de la poussière à l'intérieur, etc. On recouvre avec dans les couloirs, dans les galeries marchandes, on met des faux papiers peints, on met des trucs comme ça. Donc, on se rend pas compte qu'il y a une boutique vide derrière, mais il y a un certain nombre. Ou de la pub.
Ça fait des nouveaux espaces publicitaires.
Ou de la pub, c'est ça. Voilà. Oui. Donc, on se rend pas. Donc, c'est assez bien dissimulé pour que ça ressemble pas à une friche, mais c'est en train d'en devenir une. Et ben, une fois que c'est abandonné, alors quand c'est abandonné, ça fait juste une zone désertique. Peut-être qu'on l'imagine assez bien aux États-Unis où on a plus l'habitude de voir ça parce que eux, bon, je crois que c'est encore à une autre échelle. Les friches commerciales, ça se développe à une vitesse très importante. Ça fait juste des zones où les bâtiments tombent en lambeaux et sont abandonnés. Quoi.
Ils sont abandonnés et en fait, il faut quand même le préciser, ils reviennent à la charge des collectivités.
Voilà, c'est ça.
Donc en fait, de tout le monde, hein, ça, c'est des choses après qui...
Ouais. Exactement.
Sur des terres qui ne peuvent pas être récupérées. Quoi.
Ah, qui ne sont plus, on l'a dit, qui ne sont plus agricoles et qui ne le redeviendront pas, oui.
De temps en temps, il y a des squats qui s'installent. Bon, c'est bien la seule chose positive qu'on peut trouver.
Ouais, c'est ça. On a suffisamment de bâtiments à squatter. On n'a pas besoin qu'ils nous en construisent d'autres. Mm-hmm. Voilà. Alors, on l'a dit donc, la France est le premier pays d'Europe de l'Ouest en termes de construction. Mm-hmm. Ces projets-là sont très longs à porter, etc. Mm-hmm. Toi, tu l'as précisé, la fréquentation des centres commerciaux, elle est plutôt en baisse. Alors, ce n'est pas des baisses colossales, mais quand même, c'est une baisse régulière depuis plusieurs années. Alors, qu'est-ce qui pousse ces énormes groupes financiers où est-ce qu'ils trouvent leur intérêt à construire des centres commerciaux qui vont mettre peut-être des fois 10 ans à construire avec des perspectives de rentabilité qui ne paraissent pas évidentes. Et pourtant, il y a bien un modèle économique derrière.
Il y a un modèle économique. Alors là, ce qui s'observe, bon, moi, je suis pas dans la tête ces groupes financiers et il y a probablement des choses qui m'échappent. Je pense qu'il y a des choses qui leur échappent aussi d'ailleurs. Mais ce qu'on observe aussi, alors sur la question de la diminution des fréquentations des centres commerciaux, c'est que les seuls qui s'en sortent à peu près, c'est les plus gros centres commerciaux, c'est les très gros en fait. Donc je pense qu'ils sont dans une logique, et c'est ce qu'on observe globalement aujourd'hui, la plupart des centres commerciaux qui se construisent sont de plus en plus gros, avec l'idée qu'eux vont s'en sortir, les autres vont trinquer, c'est ceux qui avaient été construits avant, qui étaient plus petits, etc., qui vont un peu péricliter. Et puis eux, du coup, c'est pour ça qu'ils associent aujourd'hui, ils appellent ça des centres de loisirs. Donc dans le centre commercial, ils vont mettre un cinéma, ils vont mettre une zone de karting, un bowling. Voilà, donc avec l'idée que du coup, ça devienne des zones de vie. On va pas seulement faire ses courses, on va y passer son week-end.
Et quelle vie ?
Bah oui, alors ça, on est bien d'accord. Mais donc, je pense qu'ils sont dans cette logique-là aujourd'hui, avec l'idée qu'ils s'en sortiront mieux que leurs voisins. Et voilà. Et donc, c'est pour ça qu'on a des projets de mesurer. Comme à Paris, il y a le projet d'Europa City dans le triangle de Gonesse, où ils veulent faire
une lutte également locale. Hein,
avec
importante.
Une lutte importante locale, et où c'est sur une des meilleures terres agricoles qu'on puisse avoir en France, une très, très, très bonne terre. Ils veulent faire un projet qui sera le plus grand. Mais c'est centre commercial, ils veulent faire des pistes de ski, ils veulent faire un parc d'attraction, ils veulent faire sur une zone qui est genre je sais plus combien de dizaines d'hectares ça fait, mais c'est gigantesque. Et voilà, donc c'est l'idée de faire toujours plus gros en espérant qu'on crée une attraction que les autres n'ont pas et qu'on s'en sortira.
Et piste de ski écologique aussi.
Terriblement.
Et écraser donc la concurrence. Alors il y a aussi tout simplement de la spéculation. Hein. Ce sont des gens qui spéculent. Alors je peux vous le dire quelques bouts d'un petit article là que vous pouvez trouver sur Bastamag. Il date de novembre 2013, hein, donc c'est un article qui a 3 ans. Temple de la consommation, toujours plus pourquoi les centres commerciaux géants recouvrent la France. Donc on est tout à fait dans le sujet. D'ailleurs, il parle de Val Tolosa, hein, dans cet article assez long que je vous recommande. Voilà. Et donc ils nous disent notamment que les entreprises, ils citent 4 entreprises, hein, dont celle qui gère Val Tolosa, hein, Unibail-Rodamco, et ce sont des sociétés d'investissement immobilière cotées. donc des SIC, statut créé en 2003. Alors c'est une société foncière qui redistribue à ses actionnaires au moins 85% des loyers perçus et 50% des plus-values réalisées en échange d'une exonération d'impôt sur les sociétés. Voilà. Donc un statut qui a largement aidé à l'émergence des géants français des centres commerciaux, estime Christophe Cuvelier, patron d'Unibail Rodamco. Voilà. Donc, est-ce que c'est toujours l'actuel ou c'est l'ancien celui-là ?
Non, ça, c'est, du coup, c'est l'ancien, celui qui est devenu conseiller de François Hollande.
Christophe Cuvelier, voilà, on ne l'avait pas cité. Et donc, si 60% des activités du groupe sont en France, plus de 90% de ses actionnaires sont étrangers et ses développeurs se trouvent au cœur de la spéculation des marchés financiers. Voilà, donc l'article nous cite ensuite le chercheur en économie et urbanisme Pascal Madry, et il nous dit « À partir des années 2000, les investisseurs de l'immobilier commercial ont été de plus en plus nombreux à suivre une logique financière. Celle-ci consistait à valoriser leurs murs à partir des loyers qu'ils sont susceptibles de générer dans le futur. » Voilà, donc l'article dans lequel Pascal Madry nous dit ça, c'est « Le commerce entre dans sa bulle ». Voilà. Donc la valeur des murs sert ensuite aussi qu'à garantir de nouveaux appels de fonds pour la réalisation de nouvelles opérations. Donc c'est une fuite en avant infinie. C'est-à-dire qu'on n'a même pas besoin que le projet génère de l'argent pour créer de l'argent à partir de cet argent qui sera peut-être créé un jour. Enfin bon, voilà, des choses qui nous paraissent totalement absurdes, mais c'est aussi ce qui fait vivre ces grands projets, même quand ils ne sont pas ouverts.
C'est ça.
C'est les lois du marché. On est encore dans un truc de spéculation et de jeu d'argent, en fait, quoi. C'est des gens qui jouent en bourse sur des actions, et voilà, enfin, les résultats que ça donne, c'est ça, quoi. C'est des espèces de gros trucs qui se construisent dont on ne sait pas trop à quoi ça sert.
Et des gens qui seront gagnants, même si le projet ne se fait pas, pardon.
À mon avis, ils seront perdants, mais ils ne s'en rendent pas compte, c'est tout. Je pense que, encore une fois, on ne va pas refaire la liste des petites phrases qui expliquent que la Terre ne nous appartient pas, hein, ce sont nos enfants qui nous la prêtent, etc. Une fois qu'on aura, ou avec l'argent, quand il n'y aura plus d'eau et plus de terre pour manger, etc., on se rendra compte que l'argent, ça ne sert pas à grand-chose. Non, je pense qu'on est tous perdants. Il y en a qui pensent qu'ils sont gagnants avec la course au profit. Je pense qu'ils sont perdants comme les autres, mais c'est juste qu'ils ne se rendent pas compte. Tout le monde y perd dans cette histoire-là. Mais...
Oui, c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est des logiques à court terme, de toute façon. Enfin, là, on ne réfléchit pas à ce qui se passera même dans 10 ans. Ouais. Parce que ce que tu citais, Ben, tout à l'heure, les études qui montrent qu'au bout d'un moment, en fait, ça perd qu'il y a des emplois qui se détruisent, et que voilà, c'est dans les 5 ans qui suivent les constructions d'un centre commercial, c'est pas non plus dans les 40 ans. Quoi.
Mm-hmm. Donc c'est vraiment une vision à très très court terme.
Ouais,
ça, c'est ça.
Ouais,
tout à fait. Mais il y avait un petit côté, d'ailleurs Cécile Claverolle, qu'on a entendu tout à l'heure, le disait aussi dans son interview en septembre, il y a aussi un petit côté, après moi, le déluge, hein, voilà, ouais, moi je prends ce qu'il y a à prendre, et puis qu'importe ce qui arrive après.
C'est sûr que ça, mais cela dit, donc pour pas être totalement pessimiste, il y a aussi un certain nombre de gens qui ont conscience de ce problème-là, et il y a un certain nombre de collectifs qui luttent. Alors nous, ça fait plus de 10 ans, il y en a pas mal d'autres qui luttent aussi et qui se battent pour donner un petit peu de sens à leur vie, ou essayer de redonner du sens à l'organisation justement de nos sociétés, et puis poser des questions sur ce qu'on veut faire et sur des projets qui semblent ne pas avoir de sens pour l'intérêt de tous. Du coup, nous, pour parler d'une autre, ça fait 10 ans qu'on se bat, ça fait 10 ans qu'il n'y a pas une pierre qui est posée sur ce centre commercial, et c'est juste des citoyens qui luttent contre un groupe qui est coté au 440. Alors, ce qu'on aimerait dire aux gens, nous, quand on essaie de inviter les gens, s'ils sont d'accord avec la problématique qu'on soulève, à nous rejoindre et à se battre, il y a beaucoup de gens qui pensent que ça sert à rien, que c'est déjà fait, qu'on peut pas gagner, que c'est pas vrai. Enfin, nous, c'est ce qu'on y a des victoires, et voilà, nous la nôtre, c'est déjà une victoire le fait que ce centre soit pas là, et ce sera une victoire totale quand le projet sera abandonné. Mais on peut David contre Goliath, aujourd'hui ça marche, et on peut battre. Il faut juste rappeler aux gens qu'on a du pouvoir en tant que citoyen, et on peut vraiment faire changer les choses, et il y a un certain nombre de projets où ils y arrivent. Alors voilà, le truc, c'est sortir de la tête des gens l'idée qu'on peut rien faire face aux politiques, face aux puissance financière. C'est pas vrai. Il faut juste se mobiliser, et il faut tenir sur la durée. Alors c'est pas facile, mais si on tient bon, on y arrive.
Bon, mais on va parler justement précisément un petit peu de la lutte en cours et des rendez-vous à venir, mais on va peut-être se faire une petite pause musicale avant ça.
La rumeur.
Allez, la rumeur, oui, parce que quand on fait des supermarchés, après, faut mettre des trucs à vendre dedans. Justement, la rumeur a plein d'idées, je crois.
$400, merci, $400, personne ne dit mieux.
À vendre, mine d'or dans le désert, 2000 têtes pour 2000 tonnes à extraire. après d'exploitation dérisoire. Par employé, 10 grammes de pain plus au croupi à boire.
À vendre, sans plus attendre, parcelles de chair, tout type d'organes et de viscères, foie, cœur, globe oculaire, tout volume et tout âge, étiquetage mexicain, provenance colombienne, contacté en semaine,
9h-20h.
Père et fils, grande boucherie humaine.
À vendre, viande folle pour institut psychiatrique, stock important, DMC périmé, bonus, cervelle de veau, malade, faire vite, déstockage rapide, appelé si intéressé.
Propose virus, gangrène en fœtus, très actif dans l'eau de source plus, cancer très rare, mélanine, peau noire uniquement, testé cliniquement, breveté, déposé.
Z pour presque rien,
allez, 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 allez,
bâtiment délabré, clim naturel, termites et cafards pour voisins. Clandestin sans papier, 4000 francs la parcelle.
Promotion printemps, moins 20% sur nouveau réseau, cabaret thaïlandais. Privé et discret, grand choix d'autochtones, jeune vierge et vieille cochonne. 7 jours, 7 nuits, hôtel, repas compris. Départ Genève, Bruxelles ou Paris. Parrainer un ami et gagner. Ernest Satie, le bonus fidélité.
Feuillette une par une, feuillette les pages. Feuillette une par une, les petites annonces du carnage.
Feuillette une par une, feuillette les pages. Feuillette une par une, les petites annonces du carnage.
Feuillette une par une, feuillette les pages. Feuillette une par une, les petites annonces du carnage.
Feuillette une par une, feuillette les pages. Feuillette une par une, les petites annonces du carnage. Urgent recherche, troupeau de sans-papiers parlant peu français, sous arrêt d'expulsion. Taillable et jetable, jetable et taillable pour chantier grand stade en construction.
À vendre, petit nécessaire de torture, fait ses preuves dans interrogatoire musclé, vendu plus pater, pour chaîne au mur, bonne affaire, notice, contrôle technique, ok.
À vendre, usine dégrossie, Istanbul, Turquie, montage atelier électroménager,
plus
1200 bras, rapport salaire français, 1 sur 23.
À vendre, stock bébé pour parents stériles, provenance tiers-monde, volé à famille en exil. Certificat médical, choix conséquent, garantie 2 ans, aucune facilité de paiement.
Société offshore, Luxembourg Nord, propose gestion tout confort, transfert, blanchiment, argent sale, parfait, idéal pour campagne électorale.
À vendre, uranium appauvri, prêt pour traitement, fourni avec plan bombe A, montant à débattre, premier prix 100 millions, remise 10% sur équipement de fonction.
Feuillette une par une, feuillette les pages. Feuillette une par une, les petites annonces du carnage.
Feuillette une par une, feuillette les pages. Feuillette une par une, les petites annonces du carnage.
Feuillette une par une, feuillette les pages. Feuillette une par une, les petites annonces du carnage.
Feuillette une par une, feuillette les pages. Feuillette une par une, les petites annonces du carnage.
Feuillette une par une, feuillette les pages. Feuillette une par une, les petites annonces du carnage.
Feuillette une par une, feuillette les pages. Feuillette une par une, les petites annonces du carnage.
Feuillette une par une, feuillette les pages. Feuillette une par une, les petites annonces du carnage.
Feuillette une par une, feuillette les pages. Feuillette une par une, les petites annonces du carnage.
La rumeur, les petites annonces du carnage.
Vous êtes toujours dans le Mag sur Canal Sud. On parle depuis midi et demi à peu près avec Tanguy du projet Valtolosa, méga projet de méga supermarché qui évidemment est tout sauf un méga projet intéressant ou collectif ou d'intérêt général comme tu le disais. On a beaucoup parlé du fond du projet. Toi tu as parlé aussi du combat de votre collectif, du combat judiciaire très important que vous menez. Mais il y a aussi un combat sur le terrain et c'est important maintenant d'en parler, d'autant plus qu'il y a un rendez-vous très important cette semaine, samedi.
Ouais, donc effectivement, on est en plus de la lutte juridique, on a depuis longtemps un combat sur le terrain. On a organisé un certain nombre de manifestations pour dénoncer ce projet-là, pour essayer d'impliquer les gens sur ce qui se passe et les prévenir, informer les gens. Ça, c'est un gros travail d'informer les gens. Alors du coup, on sait que sur Toulouse, notamment, il y a un déficit de connaissances sur ce sujet-là de la part des Toulousains. Quoi. La plupart n'ont jamais entendu parler de Valtolosa ou de Gare RM la Minute, des portes de Gascogne, comme ça s'appelait avant. Et voilà, donc on a un gros problème là-dessus, c'est que les élus peuvent prendre des décisions quand les populations n'ont pas connaissance de ce qui se passe. Et on pense que c'est plus difficile quand les gens savent ce qui se passe. Voilà, donc nous on lutte à Plaisance du Touche, on a lutté au mois d'octobre, on a essayé d'empêcher les travaux qui voulaient faire donc pour construire les routes. Donc on a eu pendant 10 jours, on s'est opposé aux machines, etc. Donc on a dû être C'était une lutte entre les vigiles qui avaient été appelés par, le, par les, l'entreprise qui faisait les travaux et nous. Et donc voilà, on a eu du mal à se faire entendre là-dessus. Nous, on regrette qu'en fait, y a les projets se fassent connaître que quand il y a des drames qui arrivent. Sivin, c'est un très bon exemple de ça. C'est resté un projet dont très peu de monde entendait parler jusqu'à la mort de Rémi Fraisse. Et d'un coup, ça soulève un problème important. On pense que les problèmes ils sont là avant et qu'il faut effectivement aussi, c'est à nous les citoyens de s'emparer des sujets qui importent. Là on retrouve par exemple sur Val Tolosa un certain nombre d'ingrédients qui ont donné la recette de Sivins. C'est un projet qui n'a pas d'utilité, c'est un projet où on ne respecte pas les fois où la population s'exprime, donc notamment par exemple sur le dernier permis de construire. Il y a une enquête publique qui a donné une majorité de non, une majorité de personnes qui ont dit qu'ils étaient opposés à ce projet, mais le rapporteur d'enquête a donné un avis favorable. Donc les luttes juridiques qui ont duré des années, à chaque fois qu'il y avait des commissions environnementales qui étaient consultées, qui donnaient des avis favorables, on passe outre les avis favorables. Quand la justice s'exprime, donc annule les permis de construire, le maire redonne des permis de construire, qu'ils soient illégaux, qu'ils ne le soient pas, ça pose pas de questions. Quand les autorisations de destruction d'espèces protégées qui ont été annulées par la justice, là, on sait que le promoteur a refait récemment la demande donc pour avoir à nouveau une autorisation de destruction d'espèces protégées. Les conditions n'ont pas changé. Donc on se retrouve avec une population qui n'est pas écoutée, une justice, on fait fi des décisions de justice, on relance à chaque fois la machine, et comme c'est pas suspensif jusqu'à ce que la justice se prononce, on se retrouve à devoir lutter sur le terrain et nous se mettre parfois en situation d'illégalité face à la police, face à la gendarmerie, face à des gens qui font les travaux, simplement parce que eux n'attendent pas ou respectent pas les décisions judiciaires qui sont données. Voilà, donc là on se retrouve dans cette situation là. En octobre on a dû lutter pendant 10 jours et du coup il y a eu un certain nombre de comportements qui étaient illégaux, donc on s'est contre nous de la part des vigiles, les gendarmes n'interviennent pas. C'est très
mais à l'inverse, difficile. J'imagine quand vous avez pu avoir des comportements illégaux, là par contre l'intervention des forces de l'ordre était...
On n'a pas eu de comportements illégaux jusque-là, donc la question ne s'est pas posée dans ce sens-là aujourd'hui.
D'accord. Ouais.
Voilà, mais donc on a vraiment, et donc on organise une marche sur Toulouse donc samedi prochain, donc c'est pour dénoncer, et ce qui est un vrai problème, le fait qu'aujourd'hui des élus, le maire de Plaisance du Touche en l'occurrence, puissent accorder un permis en sachant pertinemment qu'il est illégal pour l'intérêt d'une entreprise cotée au CAC 40. C'est une magouille politique. Ils jouent juste sur le temps de la justice pour pouvoir essayer de prendre de vitesse, nous prendre de vitesse, prendre la justice de vitesse et faire le projet avant que la justice se prononce. C'est absolument pas démocratique et ça ne respecte rien du tout. Donc on est là, on vient à Toulouse pour dénoncer ça. Donc on fait une marche, effectivement, on va partir de Plaisance du Touche avec ceux qui seront motivés pour marcher une quinzaine de kilomètres. On invite tous les Toulousains qui sont sensibles.
Alors, attends, le départ à Plaisance du Touche, c'est 8h30. Hein.
8h30 à la mairie de Plaisance du Touche. Et donc on va arriver à Toulouse par Saint-Cyprien. Donc on invite tous les Toulousains à nous rejoindre à 12h30 à Saint-Cyprien pour faire avec nous la traversée de Toulouse et demander au préfet de faire annuler ce permis. Parce que le préfet doit veiller normalement au respect à l'application des lois, ce permis ne les respecte pas. On va demander au préfet de ne pas accorder une nouvelle autorisation de destruction d'espaces protégés, parce que la première a été refusée et qu'il n'y a pas de raison qu'il redonne une deuxième qui amène encore une lutte juridique pour nous. Donc on aimerait qu'enfin les politiques puissent avoir une position neutre et objective et faire ce qu'ils doivent faire. Donc on vient tous ensemble demander ça au préfet. On va organiser, on va faire ça sur un mode un peu festif parce que ça sert à rien de le faire en s'habillant en noir et en baissant la tête. Mais c'est un sujet qui est vraiment important et on a vraiment besoin qu'on se mobilise et pas attendre que la situation elle dégénère et qu'il se passe des choses que tout le monde regretterait comme à Sivins. On aimerait bien que pour une fois on anticipe et qu'on évite ce genre de drame. Voilà, donc on fait ça. Et alors il y a une petite, donc nous on a distribué un certain nombre de tracts, on a fait un certain nombre de réunions déjà pour prévenir de ça. Je profite d'être à la radio pour préciser qu'il y a une petite modification. La préfecture donc nous a demandé de modifier un tout petit peu le parcours parce qu'ils veulent pas qu'on passe dans le centre-ville de Toulouse à l'ultra-centre. Donc
oui,
finalement,
c'est ce qu'on disait hors antenne, il y a une protection quasi systématique maintenant de l'hyper-centre par les autorités qui empêchent les manifestations de passer notamment vers Alsace-Lorraine.
Centre commercial.
Ouais, et surtout en période de Noël.
Voilà, donc nous on va plus, on avait prévu de passer par le square Charles de Gaulle notamment, donc cette partie-là elle est modifiée, donc on a toujours le rendez-vous au niveau de Saint-Cyprien et finalement le trajet ce sera, on passera par le pont Neuf et ensuite on longera les quais de Tunis pour rejoindre le palais de justice, les allées Jules Guedde, François Verdier et ensuite un petit bout de la rue de Metz pour rejoindre la préfecture.
Alors du coup 8h30 départ à Plaisance du Touche,
midi et demi pour les Toulousains à Saint-Cyprien,
le point de ralliement toulousain.
Voilà, et on se dirigera vers la préfecture avec des petites haltes une fois ou deux pour faire un petit sketch, voilà, des petits trucs que nous on a prévus.
Mais notamment il y avait donc le mariage d'un maire et d'un promoteur, voilà, donc, avec un contrat en béton pour sceller leur union, hein, c'est ça qui était prévu.
On vient d'énoncer ça, on dénonce le fait que le conseil départemental leur est... voilà, il y a eu un... Bon, on n'aura peut-être pas le temps d'en parler cette fois-ci, mais on a un conseil départemental qui s'était, il y a un peu plus d'un an, engagé à dire qu'effectivement ce projet il n'avait pas de sens, etc. Parce que c'est eux qui détenaient les routes qui passaient sur le centre, donc ils avaient un vrai pouvoir pour bloquer ce chantier-là. Il suffisait juste de passer des routes. Nous, ils nous avaient dit qu'effectivement ils avaient conscience de c'était un projet qui était hors d'âge, qui n'était pas forcément positif, et voilà. Mais ils ont décidé de faire appel une médiation du gouvernement. Le gouvernement a envoyé un médiateur qui nous a dit bah, écoutez, ce projet va se faire. Le conseil départemental a dit à la suite de ça c'est bon, tout le monde a été entendu, tout le monde est d'accord, donc je cède les routes. Et voilà ce qu'il a fait dans la précipitation. Or, deux mois après, le permis était annulé. Et voilà. Mais donc, on est là
de
pour
Paris,
dénoncer.
Peut-être bien là, coup, là, dans cette histoire.
Bah, on a du mal à comprendre, sauf à croire qu'effectivement, il y a un petit peu d'hypocrisie ou voilà de la part des politiques et du conseil départemental. Donc on est là pour dénoncer ça, voilà, le fait que les politiques les uns après les autres fassent cadeau aux promoteurs de ce qui leur manque pour créer ce centre commercial. Voilà, on aimerait bien qu'ils se souviennent que leur rôle c'est de nous représenter les intérêts généraux de la population. C'est pas un centre commercial.
Alors donc, l'arrivée devant la préfecture, hein, ce samedi donc 17, ce sera autour de 15h30. Et là encore, il y aura de la prise de parole, des échanges, de
exactement,
la musique.
Voilà. Et voilà. On fait aussi une petite projection la veille. Enfin, pas on fait une projection, mais le cinéma Utopia à Tournefeuille nous a invités à être présents lors de la projection. En avant-première d'un film qui s'appelle La cigale, le corbeau et les poulets. Donc ça parle d'une histoire qui est un peu un Tarnac bis, voilà, qui s'est passé dans l'Hérault il y a quelques années. Et voilà, et nous on sera là à l'entrée pour informer un petit peu de tout ce qu'on fait, inviter les gens à nous rejoindre, etc. Et voilà, donc si vous voulez nous rejoindre à l'Utopia vendredi soir.
Utopia Tournefeuille, hein,
Utopia,
on vous rappelle, il n'y a plus d'Utopia
évidemment.
En centre-ville, donc ça c'est le vendredi à 20h30. La cigale, le corbeau et les poulets, c'est pour préciser, c'est une comédie documentaire, hein, comme ils disent, c'est réalisé par Olivier Azam, ouais, et toute l'équipe de Merci Patron, le film de Fakir, voilà, donc dont on avait pas mal entendu parler.
Il ouais, y aura les acteurs, parce que c'est pas des acteurs, mais les protagonistes merci du film qui seront présents voilà ce soir-là.
Voilà, et le collectif Non à Val Tolza sera présent.
Évidemment.
Voilà, et donc le lendemain, dès 8h30, si vous êtes matinal et surtout dans le coin, vous rendez-vous à la mairie de Plaisance du Touche, à midi et demi au métro Saint-Cyprien pour les Toulousains, ou même un peu plus tard, à 15h30, vous pouvez...
On aimerait bien que les Toulousains soient là à midi et demi pour la traversée de Toulouse.
Voilà, bah écoutez, voilà.
Ça sera chouette.
Tout ça est sur le site...
Voilà, donc vous pouvez aller sur le site qui s'appelle gardaremlaminute.com, donc gardaremlaminute.com. Alors bon, c'est GARDAREMLAMENUDE, donc c'est nousgarderonslaminute.com. Il y a toutes les infos dessus, et voilà, sinon vous tapez Non à Val Tolza sur un moteur de recherche, vous trouverez le site internet, c'est aussi simple. Voilà.
On va s'écouter un peu de musique.
Allez, pour terminer cette session, qu'est-ce que tu nous mets de beau ?
C'était, tu parlais tout à l'heure du testé et des mêmes ingrédients qui sont réunis un peu juste avant qu'arrive le drame du testé. Xavier Belin, président de la FNSEA et de Sophie Protéol Avril, appelait à se méfier du djihadisme vert. Voilà, un petit rap qui nous rappelle ça.
Et ce qui me navre, moi, c'est qu'on organise aujourd'hui, je pense notamment à ces jeunes qui peuvent avoir un idéal, et tout le monde en a, on en a eu aussi quand on était jeunes, je ne voudrais pas que ces actions se transforment demain en une forme de djihadisme vert.
On défendra nos terres, nos forêts, nos rivières afin qu'elles prolifèrent. On fera face aux violences policières anti-autoritaires. On a choisi d'être solidaires. La politique, c'est cette maudite logique de profit mortifère. L'ordinaire, l'humain s'y enterre. Selon les pronostics, nos grosses villes ont 4 jours d'autonomie alimentaire réalisée. On est dépendant du pétrole. Si les ressources s'écroulent, elles s'écrouleront avec l'humanité. À moins qu'on pense à relocaliser, à jardiner nos qualités, à se radicaliser. Admirer le capital, pour lui c'est un festin. Il investit dans le béton qui ne fait qu'infester les terres et qui s'étend largement. Ainsi tous les 7 ans l'équivalent d'un département disparaît sous des parkings, des voies ferrées, des centres parcs et des aéroports. Mais un espoir est né. Autour des marécages levons les barricades. Et que l'état dégage car la ZAD vivra. Ces sales paf parlent de djihadisme vert. On dilapide vos machines de guerre. Kaya Wakba. Planquer les machines, les djihadistes verts sont là. L'industrie assassine, les renvers sont là. Kaya Wakba, hors des sondes et des radars. En transition car votre monde est un cadavre. Planquer les machines, les djihadistes verts sont là. L'industrie assassine, les renvers sont là. Kaya Wakba, hors des sondes et des radars. En transition car votre monde est un cadavre. Je lâche un freestyle en zone humide, à la gloire des marécages. À la faune et à la flore de nos vies, que c'est parigage. Résistance et sabotage, des maquis au bocage. Vos belles cages de béton nous tiennent toujours en otage. Moi j'ai grandi en zone urbaine et mes poumons sont pleins de crasse. Je ne respire plus que vos excès, citadins de masse. À la place de vos parcs éco-responsables que l'on brûlera, on mettra quelque chose de plus indispensable. Nature sauvage, irrégulière, irrégulable. Loin de la croissance verte et de votre développement durable. C'est du rap décroissant, un hymne pour la jungle. Pour les frères du testé et pour les frères d'Agen. Kaya Wakbar, c'est clair et sans concession. C'est sur le bûcher qu'on réglera tous nos contentieux. Précis et consciencieux, le système met la pression. Normal que toutes les actes soient si précieux. Planquer les machines, les djihadistes verts sont là. L'industrie assassine, les renvers sont là. Kaya Wakba, hors des sondes et des radars. En transition car votre monde est un cadavre. Planquer les machines, les djihadistes verts sont là. L'industrie assassine, les renvers sont là. Kaya Wakba, hors des sondes et des radars. En transition car votre monde est un cadavre. Sous le poids du ciment, on atteint la rage de raison. Nos vies asphyxiées sous une plaque de béton. Éclairés au néon, nos rêves ont l'air sales. Quand on ne les trouve pas dans les rayons d'un centre commercial. Leur ciel abrite un système violent. Et leur kérosène carbonise mon cerf-volant. Valeur de la République ou intérêt privé. Vu qu'ils ne font que réprimer au nom de l'intérêt public. Les dernières pelouses sont entre des poteaux de foot. Le monde entier comme une immense aire d'autoroute. Coûte que coûte, anticapitaliste et décroissant. Vent le vent et bien rien. Démocrateux dans leur bouche réactionnaire. Affame les campagnes et engraisse les actionnaires. La tonnerre comme un retour à la réalité. Kaya Wakba, le meilleur peut encore arriver. Planquer les machines, les djihadistes verts sont là. L'industrie assassine, les renvers sont là. Kaya Wakba, hors des sondes et des radars. En transition car votre monde est un cadavre. Planquer les machines, les djihadistes verts sont là. L'industrie assassine, les renvers sont là. Kaya Wakba, hors des sondes et des radars. En transition car votre monde est un cadavre.
Kaya Akbar, un gros doigt à Xavier Belin et son monde. C'est un rap qui nous vient d'une petite commune de Loire-Atlantique qui s'appelle Notre-Dame-des-Landes. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose.
Non, jamais entendu parler. Bon, mais on va peut-être arrêter là. Est-ce que tu avais peut-être une petite chose à rajouter, Tanguy ?
Garde à Rheims-la-Ménude.
Garde à Rheims-la-Ménude, manifestation donc ce samedi à Plaisance-du-Touche et puis à Toulouse, rendez-vous à 12h30 à Saint-Cyprien.
Exactement.
Et puis évidemment, on vous tiendra au jus, auditrices, auditeurs, de la suite de ce combat qu'on espère victorieux. À la fin, c'est nous qu'on gagne, je crois, dit aime bien dire Fakir, on l'a cité tout à l'heure.
Ouais,
bon, et programme de cet après-midi, Julien ?
Un petit générique d'abord.
Ah ouais, allez, un petit générique. Ah ouais.
On aime.
Je le connais, ce générique, je l'avais déjà entendu en fait.
Du coup, programme de cet après-midi, à 14h, on reçoit l'assaut du Fred qui vient faire son émission Attention climat, ça chauffe. Puis à 14h30, rediffusion de Route 66. À 16h, ça sera Survivre au sida. Ou bien Vivre avec le VIH, je sais pas, je crois qu'ils ont changé de nom d'émission.
Oui, je crois que c'est ça, c'est Vivre avec le VIH maintenant.
Voilà. Et à 17h, Manu, l'éternel Manu, qui vient pour le Dixie Bob Show.
30e année en cours, hein.
Ouais, il lâche rien, et il est là, fiers et vaillants. Et voilà, et ça nous mène à 19h avec l'émission de Nelly.
Les portraits.
Les portraits.
Oui, alors...
Nelly a changé son créneau.
Ouais, tout à fait, il faut le dire, l'émission de Portrait de Nelly, maintenant, c'est le mardi soir de 19 à 20h.
Voilà. Et la suite, eh ben, je ne sais pas.
Alors demain, quand même, on vous le dit, exceptionnellement, pas de magazine. Voilà, nous serons en réunion, préparation, formation, voilà. C'est Sandrine et Nelly qui vous retrouvent jeudi pour le mag, toujours à midi, toujours sur le 92.2 FM de Canal Sud.
C'est ça. Et bonne journée.
Merci d'être venu, Tanguy. Salut.
Merci beaucoup. Bonne journée à vous.